Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte à tirer des médias suivants. La presse et le devoir. Au programme, au nom de l'humilité et du respect. Mistral gagnant, Mistral perdant. Et Marie-Claude Molnar, la miraculée qui redonne. Bonne écoute.
Au nom de l'humilité et du respect, un texte de Louis-François Brodeur paru le 15 avril 2023 dans la presse. L'auteur s'intéresse aux politiques publiques et à la communication politique. Il est titulaire d'un doctorat en administration de HEC Montréal et d'une maîtrise en philosophie de l'Université de Montréal. Dans l'édition de la presse du 12 avril 2023, Isabelle Haché relatait un autre épisode de la saga du harcèlement en ligne, un phénomène répandu et difficile à endiguer. La semaine précédente, ils étaient près de 400 à dénoncer, dans les pages du Devoir, l'acrimonie des réseaux sociaux nourrie par les faiseurs d'idées, par les curés du gros bon sens et par les diverses manufactures d'opinion. Je suis de tout cœur avec eux et avec les milliers d'autres qui subissent cette haine. J'admire tous ceux et celles qui s'expriment régulièrement et publiquement, qui émettent des avis qui divergent de la doxa ambiante. Ce qu'ils vivent est difficile et la solution n'est pas évidente. À mon sens, il faut réhabiliter certaines valeurs qui fondent nos démocraties libérales. D'abord, prenons une pause et reconnaissons la force de ces personnes qui font partager leurs opinions, leurs valeurs, leurs connaissances et leurs expertises. Quand elles le font, elles se présentent vulnérables. Déjà, en temps normal, il faut une dose de courage pour défendre des idées et débattre dans l'arène publique. Par les temps qui courent, ce courage doit être décuplé. Leur contribution est inestimable. Il est important de maintenir une société ouverte et pluraliste où chacun se sent libre et capable de participer au débat public sans conséquences démesurées. Par leur contribution, ils font vivre cet idéal. Cette liberté, ce pluralisme, est le ciment de nos démocraties. Il est important de le rappeler régulièrement. Mon cœur est donc avec les signataires et tous les citoyens qui animent notre vie politique. Ensemble, il me semble, la peur nous fait moins mal. Sans vous, notre société ne serait plus que le reflet d'un espace démocratique. Nous ne jouirions plus que des lambeaux de notre idéal libéral. Certainement, ces comportements délétères dans l'espace médiatique et sur les réseaux sociaux ne sont pas l'apanage des droites ou des gauches. La bêtise semble être bien répartie. Force est de constater toutefois qu'un certain populisme tend à nourrir la bête de l'indignation dont les clics engraissent les entreprises médiatiques. C'est un modèle d'affaires qui marche. La solidarité sociale est un bouclier qui permet de magnifier le courage de ceux et celles qui aimeraient prendre la parole publiquement et ainsi nourrir nos idéaux d'une société pluraliste, libre et démocratique. Mais ce ne sera jamais suffisant. Tant qu'un marché de consommateurs de scandales et d'opinions outrancières existe, quelqu'un lèvera la main pour occuper le siège du prêcheur. La question fondamentale est la suivante. Pouvons-nous vivre de manière démocratique sans fournir des efforts constants pour incarner les valeurs de notre régime politique? La démocratie peut-elle subsister sans un peuple qui partage les idéaux d'égalité et de liberté? À mon sens, il faut redoubler d'efforts et réhabiliter certaines valeurs qui sous-tendent notre capacité de débattre et de décider collectivement de notre avenir. Des valeurs dépassées? Il faut valoriser l'humilité. L'humilité, c'est la possibilité que nous n'ayons pas raison. Dans le débat public, c'est la condition de possibilité d'un dialogue constructif où chacun écoute et évalue les idées à l'aune des leurs. L'humilité, c'est aussi le questionnement constant de notre importance relative dans la société, et cela participe de l'égalité démocratique. L'humilité sous-tend notre capacité à réviser nos croyances. Il faut remettre de l'avant le respect. Que nous soyons sur les ondes d'une radio très écoutée, à l'épicerie, sur un réseau social ou dans une salle de classe, nous devrions traiter l'autre avec un respect égal à celui que l'on attend de tous. Lui aussi, comme nous, est un être sensible et rationnel, doté d'une vision du monde et d'une volonté propre. À ce titre, il est digne de respect. Par respect, nous nous soucions de nos relations sociales et nous réfléchissons sur ce que cela signifie de vivre ensemble et des limites que l'on devrait s'imposer. Le respect est le frère de l'égalité. La générosité devrait également avoir une plus grande place dans notre société. Je parle ici de la générosité que l'on accorde aux autres, celle de les écouter, d'essayer de les comprendre avec candeur et authenticité, et de leur donner le bénéfice du doute. On ne peut vivre sereinement dans un monde que l'on croit peuplé de malfaiteurs et de conspirateurs. La générosité permet le vivre ensemble. Évidemment, je ne peux m'empêcher d'avoir l'impression de mettre de l'avant des idéaux dépassés. Mais peut-être que de commencer à parler de ces valeurs et d'autres, de les expliquer et de les vivre, de montrer des femmes et des hommes qui les incarnent, de les valoriser et de les reconnaître, est un premier pas vers une société plus décente. Et cette décence et ces valeurs sont le socle d'une société libre et démocratique. C'était, au nom de l'humilité et du respect, un texte de Louis-François Brodeur, paru le 15 avril 2023, dans la presse.
Mistral gagnant, Mistral perdant, un texte d'André Lavoie, paru dans le Démagazine, édition 25 et 26 mars 2023, du journal Le Devoir. Arrivé tel un météore dans le paysage littéraire des années 1980, Christian Mistral a brillé avant de sombrer. Certains auteurs semblent immortels, d'autres sombrent dans l'oubli. Après un temps, qu'en reste-t-il? Dans sa série mensuelle « Faut-il relire ?», Le Devoir revisite un de ses écrivains avec l'aide d'admirateurs et d'observateurs attentifs. Aujourd'hui, Christian Mistral, 1964-2020, premier auteur québécois à y faire son entrée, lui dont la sienne fut fracassante dans le monde des lettres au milieu d'une décennie morose. Il a connu les salons du livre et les cellules de prison, celles de Parthenay et de Bordeaux, l'ivresse du succès et les migraines des lendemains de veille, l'étiquette d'enfant terrible puis celle de batteur de femmes. On le reconnaissait aussi à ses allures de dandy, son éternel chapeau bien rivé sur sa tête, ayant fait de la rue Saint-Denis son royaume, et certains bars, dont les Beaux Esprits, ses quartiers généraux. Christian Mistral ne souhaitait jamais passer inaperçu, du moins à l'époque de sa gloire lors de la publication de Vamp en 1988. Ce premier roman, écrit par un jeune homme de 23 ans qui n'avait guère flâné sur les bancs d'école et carburait déjà à l'alcool, a été reçu tout autant comme une bombe que comme un manifeste, celui de la génération X à laquelle Mistral s'identifiait totalement. Sans compter ses descriptions de Montréal qui, sous son regard, débordaient de sensualité, mais suintaient aussi le désespoir. L'écrivain, il faut le dire, était précoce en bien des domaines, lui qui avait publié, à compte d'auteur, son premier recueil de poésie à 14 ans, geste d'amour à l'égard d'une fille qui a préféré brûler son exemplaire. Marié à 16 ans, divorcé 2 ans plus tard et devenu père entre les deux. Mistral aimait aussi beaucoup les nuits de Montréal et sa toxicomanie n'était un secret pour personne. Si sa consommation posait problème, dont sur le plan financier, ses sautes d'humeur, elles, ont pris, bien avant sa mort, une dimension tristement légendaire. En effet, on ne compte plus les témoignages le décrivant à la fois d'une infidélité à toute épreuve en amitié et d'une arrogance dévastatrice dans ses plus mauvais jours. Certains ont vu aussi dans Vamp et tous les livres qui suivront Vautour, Vacuum, Valium, Léon, Coco et Mulligan, des autobiographies déguisées écrites avec un souffle romanesque parfois exceptionnel. Avant que les choses ne dérapent et que la justice ne le rattrape une fois de plus dans les années 1990, sa personnalité flamboyante ajoutait une grille d'analyse à une œuvre personnelle et foisonnante. Jean-Roch Boivin, ancien critique littéraire au Devoir et au Voir, récemment décédé, disait de lui qu'il se comporte dans la vie comme une réincarnation de Jean-Paul Sartre. Rien de moins. Une affaire de famille. Âgé de 81 ans et maintenant à la retraite, André Vanasse se souvient avec vivacité de sa rencontre avec Christian Mistral. Alors directeur littéraire chez Québec Amérique, il n'avait pas terminé le manuscrit de Vamp que déjà il pressait son auteur de le publier à son enseigne, avec le succès que l'on sait et les dérives qui ont suivi. Car celui qui était également professeur de littérature à l'UQAM et romancier, La saga des Lagacés, La vie à rebours, La flûte de Raffi, reconnaît qu'il avait avec Mistral une sorte de relation père-fils. En effet, le parolier de Soir de scotch, le grand succès de la chanteuse Luce Dufaux, noyait souvent sa peine de ne pas avoir connu son père biologique, une des nombreuses blessures que Mistral cachait tant bien que mal, et que ses comportements erratiques trahissaient souvent. « Je n'ai jamais eu peur des Christian Mistral de ce monde », clame André Vanasse, admettant tout de même qu'autant de Québec-Amérique comme chez XYZ, où il poursuivra son travail d'éditeur dès les années 1990, il lui en fit voir de toutes les couleurs. Ce que corrobore son fils, Alexandre Vanasse, éditeur de Lettres québécoises, impliqué très tôt aux côtés de son père dans le milieu littéraire. Je me souviens encore d'un appel de la secrétaire chez XYZ, complètement paniquée, pour que je m'interpose au plus vite entre Christian et André. Il ne se battait pas, mais ça criait allègrement. Se souvient celui qui est vite devenu le frère adoptif de Mistral. Quant au père de substitution, il demeure convaincu que Mistral ne l'aurait jamais frappé, tout en admettant qu'en vérité, ce qui l'a tué, c'est sa violence. Alors qu'il défrayait davantage la chronique judiciaire que littéraire dans les années 1990, Christian Mistral connaissait déjà les arcanes de la justice, reconnu coupable de fraude dès 1984, d'entrave et d'intrusion en 1989. Des faits d'armes que Louis Hamelin ignorait, lui qui l'a bien connu au moment de sa fulgurante ascension, qui coïncidait avec la sienne. Son premier roman, La Rage, publié en 1989 chez XYZ, lui vaudra le prix du gouverneur général et le respect de celui avec qui il partageait le même directeur littéraire, André Vanasse. À cette époque, les deux écrivains issus de la même génération et vite devenus ses chantres désenchantés se fréquentaient à l'occasion, au point où Mistral disait d'Hamelin qu'il était lui aussi son frère. Il cherchait son père, il se cherchait une famille et enviait beaucoup la mienne, affirme celui qui est également chroniqueur au Devoir. Mais il prenait beaucoup de place, déplaçait beaucoup d'air et nous n'avions pas la même vision de ce qu'est un écrivain. Moi, reclus dans sa cabane dans les bois, lui fasciné par des écrivains maudits comme Jack Kerouac ou Henry Miller. À un moment donné, ce n'était plus soutenable. J'ai dû m'éloigner pour préserver ma santé, tant physique que mentale. Au fond, c'était quelqu'un d'assez malheureux. Ça n'excuse rien, mais ça explique certaines choses. Légende ou étoile filante? Hamelin reconnaît toutefois qu'on ne pourra jamais enlever à Mistral son talent rare, éblouissant dans Vampes, bien affirmé dans Vautour, même si l'auteur de La Constellation du Lynx reconnaît qu'il existe deux camps retranchés. Certains vénèrent le premier livre, d'autres le second. J'ai relu des pages de Vampes avant notre entretien. Peu importe ce que l'on pense du personnage et de sa vie, c'est un classique de la littérature québécoise. À l'époque, ce livre fut pour moi un choc et a façonné l'écrivain que je suis devenu. Cette plume fulgurante et les concerts d'éloges qu'elle suscitait ont fini par, sans mauvais jeu de mots, enivrer Christian Mistral. Son alliance avec André Vanasse fit un temps, les deux hommes ayant pris leur distance. Quant à Alexandre Vanasse, il n'avait jamais complètement coupé les ponts avec lui, le visitant à l'occasion dans son petit logement de la rue Rachel, où il finira ses jours. Se souvenant aussi bien d'un être nettement plus intelligent que la moyenne que d'un gars qui pouvait débarquer chez lui à 3 heures du matin après s'être battu dans un bar, il aurait bien aimé renouer avec lui sur le plan professionnel. Je lui ai proposé une chronique dans Lettres québécoises. La première, sur Gilles Vigneault, était magnifique, mais après, il nous donnait ses fonds de tiroir, réclamait sans cesse des avances, ça ne pouvait plus continuer. Une désinvolture à laquelle son père a aussi été confronté. Figure marquante de la littérature québécoise, certes, mais une figure marquante, ça doit travailler. Oui, il est devenu quelqu'un, mais ce n'était quand même pas Jésus-Christ. En entrevue à la presse en 1995, Christian Mistral pressentait déjà le rapport ambigu que l'on aura avec son œuvre et que sa disparition n'a pas complètement effacé. C'est peut-être mon seul objet de tristesse. J'ai toujours voulu que mes livres se défendent par eux-mêmes, qu'ils soient lus en dehors de la connaissance que l'on croit avoir de l'auteur. Est-ce que ce sera toujours possible? C'était Mistral gagnant, Mistral perdant, un texte d'André Lavoie, paru dans le D Magazine édition 25 et 26 mars 2023 du journal Le Devoir.
Marie-Claude Molnar, La Miraculée qui redonne, un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 11 avril 2023 dans la presse. L'ex-paracycliste Marie-Claude Molnar est l'une des ambassadrices du 40e défi sportif Alter Go. C'était il y a bientôt 18 ans. Marie-Claude Molnar, alors âgée de 22 ans, roulait à vélo sur une voie d'accotement quand une voiture circulant à plus de 110 km/h l'a happée de plein fouet. Elle a survécu, un miracle. Marie-Claude Molnar n'a que très peu de souvenirs de cette journée fatidique du 12 juillet 2005. Ce matin-là, elle avait enfourché son vélo avec l'idée de se rendre jusqu'au parc safari à Hemmingford. En chemin, elle a aperçu une pancarte affichant le chemin à prendre pour se rendre jusqu'à la frontière des États-Unis. Pourquoi pas? Ça pourrait être le fun, s'est-elle dit en changeant de trajectoire. La Longueuilloise se souvient d'avoir longé un champ, d'avoir atteint la frontière et d'avoir immortalisé le moment avec son appareil photo. Après ça, tout a été effacé de ma mémoire, dit-elle. Attablée dans le petit café de Longueuil où elle nous a donné rendez-vous, tasse à la main, l'ex-athlète nous raconte avoir été secourue par un automobiliste qui se trouvait un peu plus loin. Le dit automobiliste avait une formation d'ambulancier. Cette personne-là m'a sauvé la vie, parce que j'ai perdu vraiment beaucoup de sang, dit Marie-Claude Molnar. C'est que, après le contact, son corps avait atterri dans le pare-brise du véhicule qui l'a happé. De la vitre, ça coupe, rappelle-t-elle. Ses deux bras ne tenaient plus que par quelques filets de peau. En raison de la quantité de sang que j'ai perdue, je suis décédée. Mais bon, ils ont été capables de me ramener, s'exclame-t-elle en souriant. Un miracle, disait-on. Le verdict final, un traumatisme crânien léger, une amputation partielle des deux bras et une vingtaine de fractures à la jambe gauche. Elle a eu des points de suture à la tête et a subi différentes opérations à la jambe. On lui a installé des plaques et des vis dans les bras. Marie-Claude Molnar a passé 3 semaines à l'hôpital avant de retourner chez elle et d'entamer des traitements de physiothérapie. Si la femme de 40 ans n'a pas grand souvenir de cette période de sa vie, elle se souvient d'une chose. Je n'avais pas un état d'esprit négatif. J'étais plus dans le positif. Sportive dans l'âme, Marie-Claude Molnar n'a mis qu'un mois et demi avant d'enfourcher un vélo de nouveau. Elle s'est remise à rouler pour le plaisir, comme elle l'avait toujours fait. Ce n'est que plusieurs années plus tard, en 2008, qu'elle s'est intéressée à la compétition pour la première fois. Elle s'est souvenue d'une affiche qui l'avait marquée 3 ans plus tôt, pendant ses traitements de physiothérapie. Une affiche du défi sportif Altergo. Elle montrait un paracycliste, Marc Breton, qui était amputé d'un bras. Je me suis dit, si lui est capable, probablement que moi aussi je peux le faire. Marie-Claude Molnar a contacté Lynn Bessette, seule référence qu'elle avait dans le monde du cyclisme, qui l'a mise en contact avec Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes. En novembre 2008, elle avait un entraîneur et en avril 2009, elle participait à sa première course. Laquelle? Le défi sportif laisse-t-elle tomber? Dès cette première expérience, Marie-Claude Molnar a atteint 95% du standard de l'équipe nationale au contre-la-montre. Cette année-là, elle a représenté le Canada au championnat du monde sur route. C'était le début d'une longue, belle et fructueuse carrière. Pendant ses 13 années dans l'équipe nationale, la cycliste a tout fait. Elle est montée sur le podium aux Jeux parapanaméricains, aux Jeux paralympiques et aux championnats du monde. En 2021, elle a été couronnée championne du monde sur route et au contre-la-montre. Elle a voyagé à travers le monde. Elle a fait de nombreuses rencontres marquantes. Ça a vraiment été un travail d'équipe formidable. C'est important de le mentionner, insiste celle qui a pris sa retraite l'été dernier. Toutes ces expériences forment aujourd'hui la fondation de ce qu'elle est en train de devenir. Quand elle a été pressentie pour être ambassadrice du défi sportif Altergo, Marie-Claude Molnar n'a pas hésité une fraction de seconde. Non seulement elle a participé à l'événement presque chaque année pendant 13 ans, mais c'est là que tout a commencé. Ça a été ma première course, ma porte d'entrée, rappelle-t-elle dans la douceur qui la caractérise. Le défi sportif, rappelle-t-elle, est une occasion pour les jeunes athlètes des écoles primaires et secondaires vivant avec un handicap de se retrouver dans un environnement où le sport fait en sorte que tout le monde est pareil, explique Molnar dans un sourire. C'est ça, la beauté du défi sportif et du sport paralympique dans son ensemble. Tout le monde est égal, dit Marie-Claude Molnar. En tant qu'ambassadrice, elle ira à la rencontre des jeunes sur les sites de compétition. Elle leur racontera son parcours, celui d'une femme qui, après avoir frôlé la mort, a foncé dans une nouvelle aventure qui lui a permis de se dépasser plus qu'elle ne l'aurait cru possible. C'est justement ça, son message aux jeunes. Vas-y. Parce que si tu n'essaies pas, tu ne le sauras jamais. Et ça, Marie-Claude Molnar est bien placée pour le savoir. C'était Marie-Claude Molnar, La Miraculée qui redonne, un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 11 avril 2023, dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lina Marche et Jocelyne Langevin à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.